VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonjour à tous et à tout le monde aujourd'hui, édition du vendredi 31 mai 2019. En direct de Washington, Idrissa Sedoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En République démocratique du Congo, retour hier à Kinshasa de la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé en 2017 à Bruxelles.
Le Burundi menace de couper les liens avec Michel Kafando, l'émissaire spécial de l'ONU.
La polio est de retour au Cameroun après 4 ans d'absence, avec un cas confirmé dans la région de l'extrême nord.
Le président du Mexique appelle au dialogue sur l'immigration après la menace de son homologue américain Donald Trump d'imposer des tarifs douaniers sur tous les produits mexicains.
L'Arabie Saoudite a reçu un soutien arabe quasi unanime face à l'Iran à l'issue de 2 sommets à la Mecque.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la dépouille de l'opposant historique Étienne Tshisekedi, décédé à Bruxelles le 1er février 2017, a été ramené hier à Kinshasa. Le point avec Irénée Herman Ungbo.
Son fils et actuel président Félix Tshisekedi menait la délégation hier nuit à l'aéroport international de Midjili. Un corbillard aux couleurs de la RDC a amené la dépouille à la morgue. Plusieurs milliers de personnes ont attendu le passage du cortège sur le grand boulevard menant de l'aéroport au centre-ville. Le cercueil sera exposé aujourd'hui au stade des Martyrs et Étienne Tshisekedi sera inhumé demain dans un mausolée de Nzélé dans la banlieue de Kinshasa. Né en 1932, il est décédé le 1er février 2017 à Bruxelles. Il a d'abord été un proche du dictateur Mobutu Sese Seko à l'indépendance de l'ex-colonie belge en 1960, puis est passé dans l'opposition et a fondé dans la clandestinité l'UDPS en 1982. Le sphinx de Limété, du nom de sa commune, a été brièvement premier ministre après la conférence nationale des années 90. Il est repassé dans l'opposition sous le régime de Laurent-Désiré Kabila et s'est opposé aussi à Joseph Kabila. C'est pour cela qu'on le surnomme l'opposant historique congolais.
RDC toujours, l'armée congolaise a exposé jeudi à Beni 23 corps de ce qu'elle a appelé des terroristes tués au combat dans l'est du pays, où le groupe État islamique a de nouveau revendiqué une attaque contre l'armée congolaise. Des habitants sont venus voir les cadavres à la mairie de Beni, où des centaines de civils ont été massacrés depuis octobre 2014 dans des attaques attribuées aux milices des forces démocratiques alliées, les ADF. Les ADF sont à l'origine des rebelles ougandais musulmans installés depuis 20 ans dans l'est du Congo.
Le Burundi menace de couper les liens avec Michel Kafando, l'émissaire spécial de l'ONU, dénonçant, je cite, « les ingérences étrangères dans les élections qui doivent avoir lieu en 2020 », a appris hier l'AFP auprès de diplomates onusiens. C'est ainsi que le Conseil de sécurité a annulé à la dernière minute, ont-ils dit, la réunion sur le Burundi prévue mardi. L'ambassadeur burundais à l'ONU, Albert Shingiro, réclame la fin des réunions organisées tous les 3 mois au Conseil de sécurité pour faire le point sur la situation dans le pays. Le processus électoral de 2020 est une affaire interne qui relève exclusivement de la souveraineté nationale, a déclaré M. Shingiro à l'AFP.
Au Cameroun, un cas confirmé de polio a été recensé dans la région de l'extrême nord, 4 ans après la disparition du virus dans ce pays d'Afrique centrale. Le point avec Claire Morin-Gibourg.
Le ministère camerounais de la Santé parle d'un cas de poliovirus de type 2 détecté dans des prélèvements effectués à Mada dans l'extrême nord, près de la frontière avec le Tchad et le Nigeria. Cette découverte, d'après le gouvernement, constitue une urgence de santé publique. Les autorités ont annoncé des mesures d'urgence, dont l'organisation d'une campagne de vaccination de riposte. L'objectif est de stopper dans les 90 jours la transmission du virus sur toute l'étendue du territoire national. Le Cameroun avait déjà été déclaré exempt de la poliomyélite en 2015. Cette maladie infectieuse est causée par un virus envahissant le système nerveux et peut engendrer des paralysies irréversibles en quelques heures. La polio peut être simplement prévenue par un vaccin.
Le Soudan a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne d'information qatari Al Jazeera à Khartoum, a annoncé jeudi le groupe, alors que des milliers de personnes ont protesté dans la capitale soudanaise contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. La décision inclut également le retrait des permis de travail pour les correspondants et le personnel du réseau d'Al Jazeera à compter de jeudi soir, a ajouté la chaîne, qui diffuse régulièrement des images des manifestations contre l'armée qui secoue le Soudan. Al Jazeera dénonce une totale violation de la liberté de la presse et assure continuer la couverture au Soudan en dépit de l'ingérence politique des autorités soudanaises.
Les femmes sont très peu visibles dans les médias, notamment audiovisuels en Afrique francophone. Les experts, les présentateurs et journalistes vedettes sont majoritairement des hommes, selon une enquête rendue publique lors d'un salon professionnel à Abidjan. Le point avec Lou Niaye.
L'enquête, à laquelle ont participé une centaine d'acteurs et d'actrices de l'audiovisuel, indique qu'il y a moins de 30% de femmes expertes invitées dans les médias, a détaillé hier Séverine Laurent, directrice de l'agent de communication Africacom, lors de la 6e édition de Discop, qui se termine aujourd'hui à Abidjan. Une quinzaine de questions ont été envoyées à plus de 750 personnalités des médias. 107 personnes, dont 71% de femmes, ont répondu qu'il y a moins 30% de femmes journalistes ou animatrices vedettes dans les émissions ou les articles publiés par leurs médias. Ces médias font très peu appel à des femmes expertes. Et quand c'est le cas, on nous invite pour parler de maquillage, de coiffure, de mode, a regretté Séverine Laurent, pointant des facteurs éducatifs et socioculturels. Le Discop organisera différentes journées consacrées aux femmes dans les médias dans le courant de l'année, notamment à Kinshasa, Brazzaville et à Dakar.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Washington donne 10 jours au Mexique pour barrer la route aux migrants clandestins qui traversent son territoire pour se diriger vers la frontière avec les États-Unis s'il veut éviter l'imposition de tarifs douaniers sur tous ses produits. Le président Donald Trump a annoncé cette décision hier soir dans un tweet, Jean-Roger Bion.
Monsieur Trump a écrit « Le 10 juin, les États-Unis imposeront des tarifs douaniers de 5% sur tous les biens mexicains jusqu'à ce que tous les migrants illégaux passant par le Mexique et entrant dans notre pays soient stoppés. Tant que ce problème de l'immigration clandestine ne sera pas résolu, les tarifs vont progressivement augmenter tous les mois jusqu'à atteindre 25% d'ici au 1er octobre. Selon le président américain, cette collaboration passive du Mexique avec, je cite, cette incursion massive constitue une urgence et une menace extraordinaire à la sécurité nationale et à l'économie des États-Unis. Il a ajouté que Mexico a des lois énergiques sur l'immigration et peut facilement arrêter le flux d'étrangers illégaux, y compris les renvoyer chez eux. Le vice-ministre mexicain des Affaires étrangères, Jesús Seade, a dans sa réaction déclaré que de tels tarifs seraient désastreux et il a averti « Si cette menace était mise en œuvre, ce serait très grave et si cela devait arriver, nous devrions réagir énergiquement ».
Ajoutons que le président mexicain Andrés Manuel López Obrador a adressé hier une lettre à M. Trump, l'invitant au dialogue. « Je vous informe que je ne veux pas la confrontation. Je propose d'approfondir le dialogue, de rechercher des alternatives aux problèmes de l'immigration », écrit M. López Obrador, annonçant par ailleurs le déplacement vendredi à Washington d'une délégation de son pays.
L'Arabie saoudite sunnite a reçu vendredi un soutien quasi unanime de ses alliés du Golfe et de ses voisins arabes à l'issue de 2 sommets organisés dans la ville sainte de la Mecque à la suite d'attaques qui ont ravivé la tension dans la région. Le roi Salman s'est livré à cette occasion à de violentes accusations contre son rival chiite, l'Iran. Ce dernier n'a reçu que le soutien de l'Irak, pays où Téhéran exerce une influence politique et entretient des liens étroits avec des groupes chiites. Un 3e sommet, celui de l'Organisation de la coopération islamique, doit suivre samedi à l'aube.
Et le ministère iranien des Affaires étrangères a accusé aujourd'hui l'Arabie saoudite de continuer de semer la division entre les pays musulmans et dans la région, ce qui est, selon un porte-parole, le souhait du régime sioniste, c'est-à-dire Israël. L'Iran critiquait ainsi les tentatives du rival saoudien de mobiliser contre Téhéran.
2 Israéliens ont été blessés, dont un très grièvement, vendredi dans la vieille ville de Jérusalem, dans une attaque au couteau dont l'auteur, un Palestinien, a été abattu par la police israélienne, a indiqué cette dernière. L'agresseur a été identifié comme un Palestinien de 19 ans. Des dizaines de milliers de Palestiniens sont attendus aujourd'hui dans la vieille ville pour la dernière prière du vendredi du mois de Ramadan, sacré pour les musulmans.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Pour accompagner davantage les producteurs du coton au titre de la campagne 2019-2020, le gouvernement burkinabé a décidé d'octroyer une subvention de 11,331 milliards de francs CFA destinée à apurer les impayés internes de ces deux dernières années. Le site InfoWatat écrit que les prix des intrants agricoles seront revus à la baisse. Le sac de 50 kg coûtera 14 000 francs CFA au lieu de 15 000 francs. Le prix d'achat plancher du coton graine sera à 265 francs CFA par kilo, soit une augmentation de 5 francs par kilo. La Banque africaine de développement a accordé à la banque tunisienne Amen Bank 57,5 millions d'euros pour développer le commerce et accompagner les petites et moyennes entreprises. Cette enveloppe se compose d'un prêt d'investissement à long terme de 35 millions d'euros, d'une facilité de 15 millions d'euros et d'un complément de 7,5 millions d'euros provenant du fonds Africa Growing Together Fund. Pour terminer, la zone de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine, est entrée en vigueur ce jeudi. Le but est d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022, contre seulement 16% actuellement. La nouvelle zone est censée permettre l'élimination progressive des droits de douane entre pays membres. Sa phase opérationnelle sera lancée le 7 juillet lors d'un sommet de l'Union africaine au Niger.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo. Yacouba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Objectif, titre et record pour l'Espérance Tunis en Ligue des Champions ce soir.
Oui, après un match aller riche en débats autour de l'arbitrage, place à l'acte 2 de la finale de la Ligue des Champions, ce vendredi à Tunis entre l'Espérance Sportive et le Wydad Casablanca. Un match nul suffirait aux hommes de Mouine Chabani pour remporter leur deuxième trophée continental de suite après le 1-1 arraché la semaine dernière au Maroc. Le match aller avait été marqué par des débats passionnés autour de plusieurs décisions arbitrales. L'arbitre égyptien a annulé un but marocain pour faute de main. Il a ensuite refusé un pénalty au Wydad sur une main tunisienne litigieuse. Sur plainte de la Fédération royale marocaine de football, l'arbitre Guéhad Grisha a été suspendu par la CAF. C'est le Gambien Bakary Gassama qui dirigera le match retour. Coup d'envoi 21h, temps universel.
L'Algérie fera sans Goulam et Delors à la CAN 2019.
Oui, l'arrière de Naples Faouzi Goulam et l'attaquant de Montpellier Indy Delors sont les deux grands absents de la liste des 23 joueurs sélectionnés par l'entraîneur Jamal Belmadi. Plusieurs médias algériens affirment que Goulam, de retour sur les terrains depuis décembre, après un an d'absence en raison de blessures, a fait savoir à Belmadi qu'il ne souhaitait pas participer à la CAN. Indy Delors, de nationalité française mais qui peut prétendre à la nationalité algérienne par sa mère, avait indiqué en mai vouloir jouer pour l'Algérie avec l'espoir d'être sélectionné pour la CAN. Selon les médias, le joueur qui a porté le maillot de l'équipe de France des moins de 20 ans n'a pas réussi à changer de nationalité sportive dans les délais impartis. Les expérimentés Islam Slimani et Adlène Guedjoura font leur retour.
La Tunisie, elle, débutera sa préparation sans son effectif complet.
Oui, les internationaux évoluant en Tunisie ainsi que l'attaquant Naïm Sliti retenu à Dijon par des matchs de barrage et le défenseur d'Al Ahly, Ali Maloul, qui termine le championnat égyptien, rejoindront le groupe après le 7 juin. Si la liste des 23 ne sera annoncée que lors du match amical en Croatie, la Tunisie peut déjà compter sur le retour de son attaquant vedette Youssef Msakni, forfait sur blessure pour le mondial Seyfedine Kawi du camp et Mohamed Amin Ben Amor de l'Étoile du Sahel, blessé, ainsi que Yohan Ben Alaoun et Siam Ben Youssef, qui n'ont pas souhaité se joindre à la sélection, ne disputeront pas la CAN. Les Aigles de Carthage disputeront les matchs amicaux contre la Croatie le 11 juin et le Burundi le 17 juin. Et pour finir, NBA, Idrissa, la nuit dernière, s'est joué le premier match de la finale entre Toronto et Golden State.
Oui, et Toronto a remporté ce premier match face au double tenant du titre, Golden State, surclassé 118 à 109. Les Raptors mènent une victoire à zéro avant le match numéro 2 qui aura lieu de nouveau dans leur salle dimanche. La première équipe à 4 victoires sera sacrée championne NBA.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En votre compagnie, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. En République démocratique du Congo, la dépouille d'Étienne Tshisekedi, figure de l'histoire, décédée à Bruxelles le 1er février 2017, a été ramenée hier à Kinshasa. Compte rendu de Walter Kyo de Top Congo FM, notre station partenaire en RDC.
C'est à 18h45 temps universel, 19h15 heure de Kinshasa, que l'aéronef qui transportait le corps de feu Étienne Tshisekedi ainsi qu'une délégation d'une vingtaine de personnes s'est posée à l'aéroport international d'Ndjili. Plusieurs officiels, dont le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, la présidente de l'Assemblée nationale, le premier ministre entrant et celui sortant, attendaient la dépouille au pied de l'avion. Les fanfares de la police nationale congolaise ont résonné ce jeudi soir pour accueillir le corps de l'illustre disparu. Après un bref recueillement du président de la République accompagné de son épouse, le cercueil a été posé sur un corbillard, destination l'hôpital du cinquantenaire à près de 25 km de l'aéroport international de Ndjili. Il y sera gardé jusqu'au vendredi avant d'être exposé au stade des martyrs. Des milliers de Kinois ont passé des longues heures le long du boulevard Lumumba pour voir passer le cortège funèbre d'Étienne Tshisekedi, ancien premier ministre de la RDC. L'UDPS ont dit célébrer cet événement.
Donc c'est vraiment un jour heureux, un jour mémorable. À la limite, on ne devrait même pas pleurer, on devrait célébrer ce jour parce que c'est le jour du retour de celui qui nous a permis de devenir tant soit peu démocrate.
Kinshasa, Walter Nkouy de Top Congo pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Lubumbashi sur 102.8 FM.
Au Niger, les populations de Niamey, la capitale, sont dans le noir depuis 4 jours du fait des coupures de courant. Cette situation est exacerbée par une pénurie d'eau dans une période de forte chaleur où le thermomètre peut afficher 45 degrés et où les fidèles musulmans observent le jeûne du mois du Ramadan. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Nous venons ici pour le travail. Il n'y a pas de l'électricité pour travailler. Sans électricité, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail.
Sans le courant, on ne peut rien faire. Donc, c'est comme ça se passe. C'est comme si c'est un repos forcé.
La situation est dure pour tous, surtout avec le jeûne du mois béni de Ramadan.
C'est le chaos total. C'est le blackout qui est dit là. Ça fait 3 jours qu'on n'a pas du jus. Même le minimum pour la rupture du jeûne, ça veut dire que tu ne peux pas trouver de l'eau fraîche pour boire. Ça, c'est dans la capitale. Pour la question que je renvoie au gouvernement, qu'est-ce qu'il veut de nous? Il veut tout bloquer, chacun allait se débrouiller. Ou bien, c'est quoi la solution?
Les explications que donne la Nigérienne de l'électricité, la chute de 2 pylônes et la panne depuis fin 2018 d'un groupe électrogène d'une des centrales de Niamey ne convainc pas beaucoup de citoyens.
Ça, c'est vrai. C'est une sorte de manque de professionnalisme du DG qui vient à la télé nous dire qu'il y a un moteur qui est tombé en panne en novembre 2018 et c'est en mai 2019 qu'on cherche à trouver la solution. Ça fait près de 3 ans successifs et surtout c'est en période de Ramadan, on coupe l'eau, l'électricité. Donc la majorité de la population elle vit ça dans sa chair et c'est pas bon. Il devrait anticiper. Ça fait 3 ans. Le moteur qui est tombé en panne en 2018, pourquoi ne pas anticiper pendant la période où il est tombé en panne? Maintenant, on dit qu'il va venir par avion. Par avion, ça va coûter cher. Si on avait anticipé, peut-être ça va venir par bateau, ça va nous coûter moins cher. Donc, vous voyez, moi, je pense au niveau de la Nigeria qu'il y a un problème de gestion qui se pose.
Les petits commerces et autres activités nécessitant l'énergie électrique tournent au ralenti ou au pire, karma sont à l'arrêt.
Vraiment, ça ne va pas. Quelqu'un au moins qui peut descendre avec un petit 10 000, 15 000 qui descend avec 3 500, vraiment, ça a rabaissé tout. Pour les appareils, même la photocopieuse, il n'y a pas l'ondulé. L'ondulé, là, c'est gâté. Ma deuxième machine, 10 jours, là, ça s'est arrêté.
Ces coupures d'électricité posent à chaque fois la problématique de l'indépendance énergétique du Niger, pays sahélien par excellence, traversé sur plus de 500 km par l'un des plus grands fleuves d'Afrique, mais qui importe plus de 50% de sa consommation d'électricité de son géant voisin du Nigeria. Abdulrazak Idrissa, à Niamey pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Au Cameroun, le nouveau Premier ministre, Joseph Dion Nguté, veut mettre un terme au coût exorbitant de construction des infrastructures routières. Selon les experts, ce dysfonctionnement est accentué par la corruption et la gabegie. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Ntap.
Les sommes dépensées pour la construction des infrastructures routières suscitent de grosses interrogations au Cameroun. Par exemple, la construction de la phase 1 d'une route à Douala, longue de 10 km, a englouti 70 milliards de francs CFA, au lieu de 47 prévus au départ. La passation des marchés, c'est ça qui pose problème. Ariel Nitedem, universitaire économiste, spécialiste en finances publiques.
C'est un mélange de corruption, de surfacturation, de gabegie, parce qu'il y a des problèmes structurels dans la gestion des marchés publics au Cameroun, avec la création d'un ministère des marchés publics en 2011 et la modification du code des marchés publics, toujours en 2011, qui a retiré le pouvoir aux ordonnateurs qui étaient les maîtres d'ouvrage, dont il y avait une réforme institutionnelle qui a prêté le flanc à ces pratiques peu orthodoxes.
Depuis 2018, le gouvernement est revenu à l'ancien code des marchés publics en vigueur avant 2011. En plus, la Chambre des comptes a été dotée du pouvoir de contrôle et de sanction sur la qualité de la dépense publique et les gestionnaires des marchés publics, des réformes qui sont loin de convaincre tout le monde.
Je ne sais pas s'il y a un profil pour être président d'une commission des marchés dans tel secteur, pour être membre.
Viviane Ondoa-Biwole, enseignante, chercheure à l'université de Yaoundé 2, spécialiste en gouvernance, entrepreneuriat.
Être président de la commission des marchés, c'est un poste de gestion comme tout autre poste. Est-ce que tous ces présidents de commission des marchés font l'objet d'une enquête de moralité? Est-ce qu'après toutes ces dérives, il y a eu une sorte de reddition des comptes, même par rapport au peuple? Techniquement, s'il y a des suggestions à faire, c'est pas au niveau des textes. Il y a beaucoup de coalitions qui sont connues. Et lorsque vous voyez qu'il y a un problème dans le processus de passation du marché, c'est qu'il n'y a pas eu un arrangement quelque part.
Lors du conseil de cabinet du mois de mai, le ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjoumessi, a expliqué que les insuffisances dans la réalisation des études techniques et géotechniques, les problèmes d'indemnisation, le non-respect des délais de paiement des entreprises sont, entre autres, les causes du renchérissement des travaux routiers. Riyad Ntati, chef de la mission de contrôle de l'autoroute en construction entre Yaoundé et Douala.
Si on veut vraiment les pousser à achever le travail fin 2020, il faut garantir les paiements. Ça limite la vitesse de l'entreprise.
Longue de 215 km, l'autoroute Yaoundé-Douala va coûter 11 millions de dollars par kilomètre contre 3,5 millions de dollars en Côte d'Ivoire. Trop cher, selon les experts. Déjà, le gouvernement envisage la construction d'unités de production du bitume pour espérer réduire les coûts des travaux des infrastructures routières. Yaoundé, Emmanuel Jumta, VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Israël, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a essuyé un revers cinglant en échouant dans ses efforts pour former une coalition de gouvernement. Bibi, comme on l'appelle familièrement, a préféré provoquer de nouvelles élections quelques mois à peine après le précédent scrutin. Pour en savoir plus, Claire Morin-Gibourg a joint l'ancien journaliste et écrivain Marius Schattner.
Pour moi, une surprise totale. Le pays est ahuri. C'est quelque chose qui ne s'est jamais vu. On a eu des élections, la droite l'a emporté assez confortablement. Ce n'est pas une victoire écrasante. Tout le monde était convaincu qu'au bout de quelques jours, peut-être quelques semaines, Netanyahou formerait un gouvernement. Et là, c'est l'échec retentissant. Et non seulement l'échec, mais ce sont de nouvelles élections. C'est quelque chose d'inimaginable.
Comment expliquez-vous qu'on en soit arrivé là?
C'est un mélange. D'abord, ce sont les affaires qui sont autour de Netanyahou, de sorte que Netanyahou est complètement obnubilé par sa bataille pour se préserver de la justice. Dans ce contexte-là, il a accepté les pressions de tous les petits partis, en particulier les partis orthodoxes, mais également de Lieberman, à un moment donné, pour obtenir une chose qui était essentielle à ses yeux, c'est-à-dire c'est de s'assurer une immunité parlementaire, ce qui est très douteux, et surtout de faire passer une loi qui permettrait de contourner la Cour suprême et qui aurait été, si elle était passée, une atteinte très très dure au système démocratique israélien. Puis d'autre part, ce sont des contradictions de la droite extrême en Israël. Déjà dans le passé, la droite extrême a fait tomber le gouvernement, mais là on a affaire à une espèce de haine personnelle avec un personnage comme Lieberman, qui est un personnage très dur, très très brutal, qui a été poursuivi d'ailleurs dans le passé pour des affaires de corruption. Ils sont des sorties uniquement par la prescription.
Alors beaucoup d'experts affirment que c'est un échec politique rare pour Netanyahou. Est-ce également votre avis?
Oui, sans aucun doute. D'ailleurs, il n'y avait qu'à le voir hier, la tête qu'il faisait, je veux dire, il était effondré. Et puis, au dernier moment, ce qui montre à quel point la politique peut être cynique, Netanyahou a proposé aux travaillistes 3 ou 4 portefeuilles au gouvernement, y compris celui de la défense. C'est-à-dire à quel point il était aux abois et les travaillistes, le leader travailliste Gabaye était intéressé, mais le parti a refusé. Il a bien fait parce qu'il n'y a aucune assurance que ce que dit aujourd'hui Netanyahou, il voudra et pourra l'appliquer. Tout le monde ment. Ça renforce dans l'opinion publique une méfiance envers les politiques et ça c'est dangereux.
L'ancien journaliste et écrivain Marius Schattner, joint à Jérusalem.
Participez à notre magazine interactif, à votre avis, du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique. Donnez votre opinion sur tous les sujets, sans tabou, politique, société, culture et bien plus encore. Vous pouvez même suggérer des thèmes sur notre page Facebook. À votre avis, l'occasion de vous exprimer librement du lundi au vendredi à partir de 18h CU sur VOA Afrique et VOA Afrique. À votre avis, c'est votre rendez-vous interactif au quotidien sur VOA Afrique.
Salut les amis, Roger Moutou ici sur VOA Afrique. Vous me suivez tous les soirs à 20h sur Universel dans l'émission RM Show. Au menu de la bonne musique, des interviews avec des personnalités, des artistes. RM Show donne aussi la parole aux auditeurs de la VOA Afrique. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205-2633. C'est au 001-202-205-2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa.
VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Dave McNess. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction et Dressa Sylvia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.